L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour cette nouvelle saison, ce nouveau numéro de l'Hebdo Radio Patrimoine. Je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble avec nos experts l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Eh bien très bien, en pleine forme pour cette rentrée.
Oui, c'est vrai que c'est la rentrée. On va parler surtout aujourd'hui de bourse, des marchés financiers.
Eh bien oui, pour savoir où on en est justement avec cette rentrée.
Qu'est-ce qui nous attend sur cette rentrée, effectivement, après un été plutôt porteur qui a vu le CAC 40 revenir sur des plus hauts historiques à un cheveu du record de septembre 2000. À quoi on peut s'attendre, à quoi les investisseurs peuvent-ils faire sur ces marchés? L'année était déjà plutôt bonne, est-ce qu'on prend ses bénéfices, est-ce qu'on en remet une couche? Sur quoi on va investir, sur quel secteur, quelle classe d'actifs, le marché est-il trop valorisé? Réponse avec nos deux spécialistes, Bérénice.
Alors Wilfried Galland est avec nous.
Bonjour
stratégiste de Montpensier Finance. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et on reçoit également Geoffrey Wafka, directeur de gestion de Horis. Bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour Bérénice.
Merci d'être avec nous également.
L'hebdo au patrimoine, voilà, troisième saison, premier épisode spécial rentrée sur les marchés financiers. C'est parti.
L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Merci messieurs de nous rejoindre. Donc ces marchés financiers, vous le savez, ont été plutôt très bons depuis le début de l'année. Les mois d'été sont bien passés pour vous, Wilfried Galland?
Formidable.
Ouais,
formidable.
Geoffrey?
Très bon également.
Bon, Bernice, je sais que c'était super aussi.
Oui, c'était top.
Et voilà. C'était bien. Alors, c'est vrai que ça sonne plutôt l'heure de la bronzette, du farnien de ces mois d'été. Mais pour les marchés financiers, souvent, ce n'est pas le cas. Hein. On a quand même eu des coups de tabac parfois, des déclarations intempestives de la Chine, des déclenchements même de conflits, des petites phrases de président. Mais cet été, eh bien, ça a été plutôt calme, cet été boursier. On a continué sur une pente, été en pente douce et une pente ascendante, Wilfried Galland, puisqu'on a failli toucher le record du CAC 40 qui date de septembre 2000 à 6944 points, il s'en est fallu d'un cheveu.
Oui, on a été à quelques dizaines de points du record. Effectivement, les investisseurs sont toujours un petit peu nerveux à l'approche de l'été parce que, on a moins d'intervenants, on a donc une profondeur de marché qui est plus faible et donc le marché est d'une certaine façon plus fragile. Néanmoins, ce qu'on constate quand même en général dans les mois d'été, ça a été le cas cet été, on voit que quand les des tendances qui sont très fortes, très établies, très puissantes précédentes, sauf choc, et vous l'avez mentionné par exemple un pays qui en envahit un autre ou vraiment un choc extrêmement important, en fait la tendance perdure tout simplement parce que il y a cette habitude exactement et faute de nouveaux éléments sur le marché, c'est exactement ce qui s'est produit. Alors on a eu quand même quelques tout petits accès de faiblesse à certains moments. On sent que le marché commence à être un petit peu inquiet sur le moteur macroéconomique, hein, en particulier le moteur américain, le moteur chinois. On sent que il y a quand même pas mal d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes politiques en Chine. Les banques centrales, on sent que l'environnement est peut-être en train de changer légèrement. Ce fameux pic liquidité est peut-être déjà un petit peu derrière nous, en même temps que le pic macro. Donc on a cette espèce d'incertitude, mais par momentum, par élan, le marché continue parce que aussi les entreprises ont montré qu'elles savaient faire dans cet environnement-là. Et donc les investisseurs en prennent acte, continuent d'investir. Et tant qu'il n'y a pas de choc, c'est toujours pareil. Hein, quand une tendance est très établie, il faut véritablement un choc fort pour que cette tendance s'arrête. Ça a été le cas évidemment en mars 2020, hein, bien sûr, avec le Covid. Tant que ce n'est pas le cas, on a cet élan.
Là, on a eu un sacré choc, effectivement. De la hauteur depuis pratiquement 100%, depuis ce creux, hein, ce dip, finalement, on s'est aperçu, Geoffroy Wafka, que l'appareil n'était pas cassé, qu'on a rebranché la prise assez vite. Mm-hmm. On a l'impression, et je vous pose cette question, est-ce que en fait, tout n'est pas déjà dans les cours? C'est-à-dire, est-ce que le rattrapage a été fait ou est-ce qu'il reste encore une marge de manœuvre de progression?
Alors, c'est sûr que la plus grande partie du rattrapage est faite. comme le disait Wilfried, on arrive à un pic de croissance, pic de liquidité. Les politiques monétaires des banques centrales vont être moins accommodantes à partir de la fin d'année. Et l'année prochaine, on va avoir une réduction des achats d'actifs qui vont quasiment être divisés par deux. Donc tout ça doit aussi être intégré par le marché. C'est vrai que les performances en 2020, en 2021 ont été vraiment très bonnes. Mmh. C'est justifié aussi par des résultats des entreprises qui sont très, très, très bons. Vraiment, même aux États-Unis, hein, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a un effet de levier qui est très important. Les entreprises, en 2019, quand elles généraient 1 euro ou 1 dollar de chiffre d'affaires, elles généraient peut-être 15, 20 centimes de marge. Avec la crise, elles ont réduit les coûts très fortement. Et en fait, cette marge, maintenant, c'est plus 15, 20 centimes, c'est plutôt 25, 27. Et donc, les résultats des entreprises sont très bons et c'est ce qui a soutenu les marchés. Il y a encore une dynamique qui va être favorable parce que la croissance est encore là, encore vigoureuse. On attend 4,5 dans les pays développés cette année, sensiblement la même chose l'année prochaine, avec un petit ralentissement en Chine. Mais néanmoins, les résultats des entreprises seront toujours présents en soutien pour les marchés.
Cet été, on parlait d'une potentielle... quatrième vague, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'on doit s'attendre à une baisse à nouveau des marchés financiers ou maintenant les marchés sont habitués à ça et au final ça ne va pas du tout les impacter? D'ailleurs, Bruno Le Maire a déclaré que c'est la fin du quoi qu'il en coûte fin août. Du coup, est-ce qu'on doit s'attendre à une petite chute encore peut-être ou s'il y a un nouveau variant ou une nouvelle vague ou pas du tout?
Je pense qu'il faut de toute façon être attentif à la situation sanitaire, évidemment. C'est-à-dire que si jamais on avait un variant qui est un échappement au vaccin plus fort. Je pense qu'il y aurait véritablement des inquiétudes là-dessus. Mais vous l'avez signalé, je pense, à très juste titre. Finalement, les marchés réagissent fortement à ce qu'ils n'ont pas vécu avant.
Oui.
C'est-à-dire que tout ce qui a été déjà testé, c'est pas tellement un problème. Alors oui, effectivement, on peut avoir des répliques. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce qu'on peut avoir des répliques. Mais ces répliques ne sont jamais aussi fortes que le premier choc. Parce que il y a le manuel,
Voilà,
exactement. On sait ce qui va. Imaginons qu'on ait effectivement un variant très important. On sait ce qui va se passer, c'est-à-dire soutien budgétaire, soutien monétaire, mise en place d'un certain nombre de politiques de freinage sanitaire beaucoup plus ciblées qu'avant. Donc oui, il y aura un impact dans ce cas-là. Mais ce que les marchés regardent toujours, c'est inconnu. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose effectivement qui n'a pas été testé, quelque chose qui effectivement est totalement dans l'inconnu, ce qui était le cas lors de la première vague, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire moderne de bloquer une économie totalement pour des raisons sanitaires, d'une façon volontaire.
Et on le refera d'ailleurs peut-être pas maintenant, effectivement, mesures ciblées. On vaccine quand même les populations. Alors, c'est sûr qu'on regarde ce qui se passe en Chine. Hein. En plus, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que la pandémie, ou une nouvelle flambée, ne semble plus inquiéter vraiment les marchés. En tout cas, ce n'est pas le focus. Il y en a un autre, il y a une petite musique qui arrive en ce moment. Un autre risque qui est évoqué, c'est le risque de retour de l'inflation. Mmh. Alors, pourquoi? Parce que flambée des matières premières... parce qu'on voit que, on le disait encore, je crois qu'il y a un nombre d'annonces records sur le site Pôle emploi, plus d'un million. Ça se passe très bien pour l'emploi également aux États-Unis. Est-ce que vous anticipez un risque de poussée inflationniste, Geoffroy ?
Alors oui, comme souvent, en fait, les marchés vivent avec le risque jusqu'au jour où ils s'aperçoivent que le risque est réellement présent. Et cette année, les banquiers centraux et Jérôme Powell en tête ont martelé l'idée que l'inflation était transitoire, temporaire, supérieure aux attentes. Néanmoins, ils nous disent ça depuis mars. Et là, on arrive en septembre. Les banquiers centraux nous disent « Vous inquiétez pas, l'inflation disparaîtra en 2022, elle se normalisera. » Sauf que, quand même, on voit des poussées inflationnistes. Alors, pour des motifs directs comme les matières premières, comme les pénuries de composants parce que certaines usines en Chine sont fermées. On a de l'usine du monde qui est finalement quand même qui fonctionne par intermittence parfois. Donc ça crée de l'inflation. Et ensuite, on a de l'inflation des salaires. Et c'est là que le vrai sujet va rester, parce que je suis sûr qu'autour de vous, vous entendez ces personnes qui ont eu des augmentations significatives dans certains secteurs, dans la restauration, dans l'hôtellerie, pour revenir travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus global. Aux États-Unis, on voit qu'il y a des vraies problématiques pour recruter. Il y a 10 millions de postes à pourvoir aux États-Unis. C'est quasiment plus que le nombre de personnes sans emploi aux États-Unis. Donc, il y a une vraie un vrai manque de main-d'œuvre qui crée une inflation des salaires.
Mais est-ce qu'il y a ce problème d'adéquation également aux États-Unis ? On sait qu'en France, par exemple, voilà, il y a toujours un bassin un peu incompressible de 2,5 millions de personnes, 3 millions. Mmh. Et pourtant, voilà, à un moment, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas formés. On sait que dans les métiers de l'informatique, etc., on a besoin de main-d'œuvre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer celui qui a été ouvrier toute sa vie. Il ne va pas devenir codeur.
Oui, exactement.
Et il y a un problème d'adéquation aux États-Unis également ?
Il y a ce problème d'adéquation, sauf qu'eux ont plus de flexibilité. Et le manque de main-d'œuvre, il se concentre essentiellement quand même sur des métiers à bas salaire et pas forcément très qualifiés. Parce qu'aussi, il y a beaucoup plus de flexibilité aux États-Unis. Ils sont prêts à déménager pour aller trouver un emploi, déménager et faire 500 kilomètres. Et ils le font beaucoup plus qu'en France, effectivement.
Wilfried, tiens, ça m'appelle une réflexion, là, justement. On sait que cette crise sanitaire Covid, elle a aussi bouleversé un peu tous nos bottes de travail, d'organisation, télétravail et compagnie. Et puis même, il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup de petits métiers qui ont disparu. J'entends, alors, petits métiers, au sens, c'est pas péjoratif, mais voilà, il y a des serveurs qui ont arrêté de faire ça. Il y a dans l'hôtellerie, dans la restauration, on voit que les gens, ils sont évaporés dans la nature ou ils ont carrément changé de vie. Quand il y a des tensions dans les métiers, c'est pas que sur l'informatique, on manque de chauffeurs routiers. Mon métier quand même relativement simple, en tout cas. Comment on explique ça ? Est-ce qu'il y a là aussi un changement de paradigme ?
Je pense que le marché de l'emploi devient de plus en plus fragmenté. Je reviens sur ce qui a été dit sur la partie américaine. Les Américains sont de moins en moins mobiles. C'est-à-dire que la fameuse mobilité américaine intra-étatique l'est de moins en moins. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que si vous êtes coiffeur en Louisiane, vous ne pouvez pas être bougé et devenir coiffeur aux États-Unis, en Californie. Il vous faut un nouveau diplôme. Hein. Donc, c'est pas aussi fluide que ça paraît.
Pourtant, on a les mêmes cheveux, normalement.
Oui. Encore que, voilà, tout se discute. Mais effectivement, je pense qu'on a cette fragmentation. On a créé, en fait, au fur et à mesure, à la fois dans les zones géographiques et même à l'intérieur des pays, on a créé des frictions de plus en plus pour des raisons de réglementation, de règlement sanitaire, de protection d'un certain nombre de professions et puis évidemment de protection de la souveraineté de plus en plus. Plus les coûts écologiques qu'on a rajoutés. Donc, on a rajouté beaucoup de frictions. Et ces frictions-là, on les voit effectivement apparaître dans l'économie. Moi, je ne suis pas très inquiet profondément sur l'inflation, parce que je pense qu'on vit quand même dans un monde profondément d'abondance où on a des effets démographiques, où on a des effets technologiques qui emportent quand même vers une tendance puissante à long terme vers des forces déflationnistes qui devraient compenser. Ma véritable interrogation, c'est une interrogation sur le coût de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation très forte des coûts de l'énergie, partout. Ouais. Et en particulier ces dernières semaines et ces derniers mois. Pas tellement sur le pétrole, mais sur l'électricité, sur le gaz, sur le charbon. Il valait mieux investir cette année sur le charbon que sur les énergies renouvelables, quand vous étiez juste investisseur.
C'est pas très ISR, socialement responsable.
Non, mais je trouve que c'est extrêmement... c'est très intéressant à regarder. C'est-à-dire, quand vous regardez, le prix du charbon a plus que doublé cette année. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a un sujet sur l'approvisionnement énergétique mondial. Et si effectivement, on n'arrive pas à le régler en prenant des décisions rapides pour justement garantir une énergie qui soit abondante, qui soit disponible, et évidemment qui se décarbone au fur et à mesure du temps, mais il faut gérer en termes de phase, on peut générer à ce moment-là, via l'énergie, des pressions inflationnistes. Et on sait très bien que l'inflation dite cœur, quand on regarde hors énergie, en fait, elle est à 70 ou 80% corrélée avec l'inflation non cœur. Elle est corrélée avec le pétrole, en fait. Donc, on dit c'est hors pétrole, mais quand vous regardez les courbes...
Cette inflation sur l'énergie, vous dites qu'elle pourrait, à long terme, être la courroie de transmission, entraîner une plus large inflation.
Pour moi, c'est à surveiller. Pour moi, c'est la véritable inconnue, effectivement, de ces prochaines semaines, de ces prochains mois.
Et pour vous, la pénurie des matières premières n'est pas inquiétante ?
Je pense qu'elle est quand même très largement temporaire pour des raisons, en fait, qui tiennent à les perturbations de circuits d'approvisionnement en Asie et cette fameuse politique zéro Covid qui fait qu'on a quand même énormément d'usines qui sont brutalement à l'arrêt, des ports qui sont à l'arrêt, à tel point qu'aujourd'hui, quand vous regardez les prix du fret ferroviaire, là, je regardais ce matin, il y a CMA-CGM qui a annoncé figer les prix du fret maritime, parce qu'en fait, ils considèrent que le marché ne fonctionne plus. Il y a tellement plus d'offres qu'en fait, ça ne fait plus de sens d'avoir du marché là-dessus. Donc, on a effectivement ces phénomènes qui sont très ponctuels. Au fur et à mesure, ça va se résoudre. Mais attention à l'énergie, parce que quand on n'investit pas suffisamment, on peut avoir des phénomènes de pénurie. Et là, ça peut durer.
Et là, ce sera plus compliqué.
On continue à regarder les risques potentiels qui pèsent sur ce marché. On va quand même rassurer ceux qui nous écoutent. Hein. Pas de crack, en tout cas, ni en été.
Ça se passe bien,
pas
ça
forcément
se passe bien.
À la raison, mais attention aux signes noirs. En tout cas, on va balayer ensemble. On a vu l'inflation, on a vu la pandémie. Il y a d'autres risques peut-être du côté de la Chine. On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite. When I'm sad, I look at you and the life I could have lived. I know I never found you in any smile or people kisses. You and I, we know the deal. You better with me out of way. So I try to keep it real. Live my life like a party. It's time to move on with my life. Nothing to say about it anyway. I know you moved on with your life. I won't be standing on the sidewalk. Never find a better pair than you and me. So I know it's about time that I move on like a queen. Cause you and I, we know the drill. You won't leave me anyway. So it's time to keep it real. Live my life like a party. It's time to move on with my life. The only way is happiness. Enjoy the stars at night. Because the future keeps anyway. Time to move on de Jodie Coste.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
C'est la rentrée sur les marchés financiers pour cette première émission. On est en compagnie de Wilfried Galland, de Geoffroy Wakfa et bien sûr de Bérénice Deville, notre macro-animatrice. Bérénice, on parlait des risques sur les marchés.
Tout à fait. Des risques, justement, de cette année qui arrive. Qu'est-ce qu'on... En quand faut-il investir au final ? Est-ce qu'il faut attendre un moment que ça baisse un peu ? Qu'est-ce qui pourrait faire baisser le CAC ? Il y a aussi quelque chose que je voulais vous demander. Les crypto-monnaies, est-ce que ça effraie les marchés financiers ?
Ouais, c'est vaste, là. C'est très très vaste.
Ouais. Mais est-ce qu'on doit s'attendre justement à...
Est-ce qu'il faut vendre tout son portefeuille pour mettre en crypto-monnaie ?
La réponse est non.
Bérénice, vous avez la réponse.
D'abord, effectivement, qu'est-ce qu'il faut surveiller pour savoir si on peut avoir des risques ? Moi, j'ai deux choses que je regarde. Hein. C'est effectivement ce qui est en train de se passer en Chine, puisque la Chine, c'est quand même un des moteurs principaux de l'économie mondiale. Donc, est-ce que le tour de vis réglementaire et j'ajouterais idéologique, hein, cette espèce de léninisme digital qu'on voit arriver en Chine, est-ce que ça peut avoir un impact très fort, non seulement sur les entreprises en Chine, là maintenant on le voit, ça c'est très très net, mais d'entraînement sur l'économie mondiale. Je pense que ça c'est un des sujets à vérifier.
Alors attendez, on va faire une petite pause et arrêt sur image sur ce qui se passe en Chine. C'est vrai qu'on a vu que Pékin a sorti le gros bâton, hein, tout, peut-être, vous savez, il y a eu l'été quand même, les gens se sont déconnectés, ils n'ont pas lu les échos tous les jours comme vous, Wilfried. Comme vous, Geoffrey. Qu'est-ce qui s'est passé cet été ? On a vu, on se souvient que à un moment, ils sont quand même très très, très interventionnistes, les Chinois, ils ont sorti le gros bâton pour les géants de la tech qui se sont effondrés de 20 à 25%. Donc on a les GAFAM qui n'en finissent pas de grimper et la contrepartie, les fameux BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui baissent à peu près dans les mêmes proportions. Geoffrey, expliquez-nous la situation.
C'est simple, c'est ce que Wilfried mentionnait, ce tour de vis de Xi Jinping qui finalement prend un peu le contre-pied des États-Unis. Il marque aussi la différence entre la Chine et les États-Unis. Il ne veut pas que des méga sociétés finalement se transforment en contre-pouvoir et donc il préfère limiter leur croissance dès maintenant. Et c'est pour ça qu'il est intervenu très fortement pour limiter les croissances, les activités qui ne sont pas adéquates et en ligne avec la prospérité commune. Je pense que aussi ce qu'il est en train de constater, Xi Jinping, c'est qu'il y a de plus en plus de milliardaires qui tous les jours apparaissent en Chine. Ça crée quand même un désordre social et il veut vraiment favoriser la classe moyenne et arrêter ces...
Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut interdire les milliardaires ou...
Ça lui pose problème, en tout cas.
Ça lui pose problème. Alors, il aimerait plus de redistribution. Alors, on a vu qu'Alibaba, je pense que c'est très, très orienté communication, mais Alibaba a décidé d'investir 400 millions de dollars pour soutenir des œuvres sociales. Tout ça pour rapprocher ces entreprises-là du gouvernement et du but initial du gouvernement. Et c'est vrai que là, le spectre d'intervention du gouvernement chinois a été très large cet été, entre des rumeurs de nationalisation de Didi, qui est le Uber chinois, parce que les accès aux données de transport des hauts dignitaires est une donnée confidentielle. Donc ces rumeurs de nationalisation-là, il y a eu énormément de démissions de PDG d'entreprises chinoises au cours de l'été. On en parle très peu, mais on a eu aussi Jack Ma qui a disparu pendant 2 mois en fin d'année dernière.
Oui, c'est vrai. On voit qu'il y a quand même des choses étranges en fait, qui ne se passent pas dans d'autres pays. Alibaba, petite correction, moi j'avais vu 100 milliards de yuan, c'est 13 milliards d'euros, donc c'est un gros chèque. Hein,
oui,
ça a fait plonger d'ailleurs l'action. C'est intéressant ce que je dis, Geoffrey. Wilfried, vous complétez, c'est également, ça fait tache d'huile également dans l'éducation en Chine.
Oui, tout à fait, puisque Xi Jinping a ordonné à tous les organismes d'éducation privée qui pouvaient effectivement continuer de faire leurs opérations, mais sans faire de profit. Donc évidemment, quand on est un organisme de privé, c'est un petit peu compliqué. En particulier, il y avait des groupes cotés dans lesquels on avait pas mal d'investissements, y compris étrangers, qui se sont bien évidemment effondrés. Ce qu'on voit véritablement en Chine, et je pense que ça synthétise tout, c'est on voit la concrétisation de ce qui s'est passé en octobre 2017. En octobre 2017, Xi Jinping a fait intégrer dans la constitution chinoise les 14 principes de la pensée Xi Jinping. Bon, on est un tout petit peu dans le culte de la personnalité.
Oui, légèrement.
Juste un tout petit peu, voilà. Le premier principe, je pense qu'il est important de l'avoir en tête, le premier de ces principes, c'est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Assurer le leadership du Parti communiste chinois, pas le leadership de l'État, du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation. Et donc,
À l'époque, ça passe inaperçu.
À l'époque, ça passe inaperçu, mais ce qu'on voyait déjà depuis quelques années, c'est que de plus en plus, les cellules intégrées du Parti communiste dans les entreprises se propageaient depuis les entreprises chinoises jusqu'aux entreprises occidentales intégrées en Chine. Vous avez des cellules du Parti communiste qui sont des cellules qui sont véritablement des prises de décision. Des espèces de comités de déontologie et de compliance, si on veut parler comme on parle souvent en France. Et ça, c'est quand même un véritable sujet. Est-ce que, d'un point de vue des équilibres financiers et économiques de la Chine, est-ce qu'on n'est pas en train de changer profondément ? Je suis totalement d'accord avec ce que disait Geoffrey, bien sûr. Il essaye d'harmoniser la croissance, la prospérité partagée. Pour lui, c'est très important. Pour les Chinois aussi, c'est très important. Je pense qu'il est très populaire aussi parmi les classes moyennes. Mais quel impact ça peut avoir sur la Chine et sur le monde, c'est quand même un véritable sujet. Il y a des entreprises qui font énormément de marge en Chine, dans la partie occidentale. Et on commence à voir des analyses qui disent, par exemple, George Soros, qui est un investisseur, disant « je recommande de ne plus investir en Chine parce que le danger est trop important ».
Ouais.
Exactement. Donc, il faut suivre.
Mais ça, il ne l'avait pas prévu, du coup. En fait, quand il a fait ça, c'était à des fins uniquement politiques.
Je pense que pour lui, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est un peu la problématique, en fait, de moi, ce que j'appelle les constructivistes. C'est un terme qu'utilisait le philosophe Karl Popper. Il disait « le monde se divise, c'était dans la société ouverte et ses ennemis ». Il disait « il y a les libéraux qui croient dans l'initiative individuelle et la liberté ». Et de l'autre côté, il y a les constructivistes qui disent « moi, je veux de haut construire une société sur le papier et l'imposer en disant « c'est ça qui va fonctionner parce que je pense que c'est le mieux ». Évidemment, en général, ça ne marche pas. Mais Xi Jinping est persuadé que le modèle de socialisme à la chinoise, ça peut marcher.
Ça peut marcher, ouais.
Donc la question, c'est quelle va être... C'est une sorte de guerre des modèles avec la partie occidentale. Et la question, c'est qui va gagner.
Après, comme le disait Geoffrey aussi, c'est pour faire l'inverse de ce que font les États-Unis.
Exactement. D'où l'expression...
C'est une motivation
d'où l'expression
un peu,
que j'emploie, la guerre des modèles. Ouais. C'est... Voilà.
Guerre des modèles. L'impact pour l'investisseur, justement, ça veut dire quoi ? Est-ce que, comme Georges Soros disait, il faut quitter la Chine ? Parce que c'est quand même une sacrée performance depuis quelques années, la Chine, hein, quand on a des actions chinoises dans son portefeuille. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a pas mal de bureaux d'analyse, de grandes banques qui restent positionnées sur ce continent qui a fini d'émerger. On est quand même sur la deuxième économie mondiale.
Bah, c'est vrai que quand on regarde à long terme les perspectives de croissance, les perspectives d'augmentation de la classe moyenne et donc de la consommation, perspectives de résultats, valorisation des marchés chinois qui, après la baisse de cette année, finalement, sont très intéressantes aussi en relative, on peut se dire, oui, on peut investir à long terme sur le pays. Alors par contre, c'est vrai qu'il faut plutôt s'affranchir des sociétés qui vont subir cette régulation qui est en train d'augmenter. Donc la technologie, c'est peut-être un peu tôt. Il y a trop de risques politiques en ce moment. Il y aura probablement d'autres soubresauts, comme on le voit encore, je crois qu'au cours de la nuit, il y a encore eu des nouvelles.
Alors on parle de la tech, mais on parle aussi d'immobilier.
Et l'immobilier, évidemment.
Il y a une grosse société.
Evergrande.
Voilà, qui est. Merci. Endettée, je crois que c'est 250 milliards de dollars. Le problème, c'est que ça nourrit. En tout cas, c'est une entreprise qui emploie, avec ses ramifications, près de 4 millions de Chinois. Donc là, c'est compliqué de la mettre en faillite.
Exactement. Et Evergrande, ça rappelle un peu tous les excès de la finance des années 2000 qu'on a eu dans nos pays développés. Sauf que Evergrande, donc, c'est un promoteur immobilier qui s'est largement développé sur la construction immobilière en Chine, mais qui après s'est complètement diversifié. Alors il a voulu faire des parcs d'attractions plus grands que Disneyland. Il a voulu investir dans des sociétés d'automobiles électriques, en faire un nouveau Tesla. Et en fait, tous ces investissements massifs se sont avérés non fructueux. Et aujourd'hui, la société a une dette qui est énorme.
300 milliards, oui.
300 milliards, c'est vrai. 300 milliards, c'est ce qui avait déclenché la crise des dettes souveraines en Europe avec la Grèce. Hein.
Yeah.
Alors, à toute proportion gardée, puisque la Chine est évidemment plus grande. Mais néanmoins, il y a un risque systémique. Et en plus, le gouvernement chinois souhaite en faire un modèle en disant « on ne va pas sauver Evergrande parce que… »
C'est pas « too big to fail », comme on disait des banques à une époque. Ils peuvent laisser vraiment le…
Oui, mais ils veulent éviter tout aléa moral aussi. Parce que si aujourd'hui, vous achetez de la dette Evergrande, vous pouvez faire 80% de performance hein, si l'État décide de sauver Evergrande. Sauf que, pour éviter l'aléa moral, peut-être que le gouvernement chinois ne souhaitera pas la sauver aussi clairement. Alors, ils vont peut-être essayer de restructurer la dette. Mais, en tout cas, une aide directe, ça semble très compliqué.
Oui, truc galant sur la...
Toute la question sur ce sujet Evergrande, qu'on avait d'ailleurs sur la société dite de Bad Bank Warong, hein, juste avant, en Chine également, c'est est-ce que la Chine est en train de vivre son moment Lehman ? C'est ça la véritable question.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on voit très bien...
une crise systémique.
C'est-à-dire que les débats qu'on a là autour de ce plateau sont exactement les mêmes que ceux qui ont eu lieu en extrêmement resserré au moment de la faillite de Lehman Brothers. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut laisser tomber une banque ? Est-ce qu'il faut gérer l'aléa moral ? Ou est-ce qu'il faut effectivement dire c'est la vie du capitalisme ? Et on sait que la décision qui a été prise et les conséquences qui ont été derrière. Donc les Chinois le savent. Donc j'espère qu'ils en ont tiré les leçons. Toute la question derrière, c'est la question de la crédibilité du système financier chinois. Quand vous regardez, par exemple, le système bancaire chinois, les créances douteuses en Chine, c'est à peu près 1,2-1,3% de toutes les créances dans les banques. Dans les pays occidentaux, c'est à peu près 4%. Est-ce que c'est crédible ? Non. Simplement, si vous êtes une autorité régionale qui a sous sa coupe des banques régionales, si vous avouez que vous avez 4, 5, 6, 7, 8% de dettes douteuses, vous avez de bonnes chances de finir dans un camp. Donc forcément, vous dites non, tout va bien. Enfin, en fait, ça se passe extrêmement bien. Le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité là-dessus.
Ouais.
Et ça, effectivement, là, le Evergrande, comme c'est coté, ouvre le couvercle là-dessus et la Chine va devoir gérer. Et comme le dit Geoffrey, ça va quand même être un équilibre extrêmement délicat à trouver.
Voilà, alors connaîtra-t-on un Lehman ? On ne se le souhaite pas, évidemment, ça pourrait être une déflagration et faire tache d'huile sur la finance mondiale. Pour donner un ordre d'idée, c'est quand même équivalent à la dette publique d'un pays comme le Portugal. Hein. C'est 300 milliards
ouais.
de dollars. Le Evergrande qui est présent dans 223 villes chinoises. Voilà, ça donne un peu la dimension peut-être du problème. On suivra ça. Alors, dans un instant, on va se pencher justement sur après ce panorama des risques, ce qu'on peut faire pour cette rentrée.
Les opportunités.
Les opportunités, c'est ce que tout le monde attend. On a les réponses de nos spécialistes, c'est dans un instant sur l'Hebdo Patrimoine. Harder, Better, Faster, Stronger, le titre des Daft Punk. Wilfried Gallant, vous avez une histoire sur cette chanson des Daft Punk.
Bah en fait, c'est, ça m'a effectivement rappelé qu'il y avait Luis de Guindos qui était interrogé il y a quelques mois en conférence de presse et qui disait notre objectif en tant que Banque Centrale Européenne sur la politique monétaire, il était interrogé sur la durée effectivement du soutien monétaire, c'était « We want to be harder, better, faster, stronger like the Daft Punk ». Et donc il avait repris exactement en conférence de presse le titre de la chanson des Daft Punk juste pour montrer qu'en fait, il n'allait pas se laisser impressionner.
Ah, voilà.
Ce qui est effectivement je ne vous cache pas, surpris un certain nombre d'analystes qui sont moins spécialistes de la musique électronique que de la politique monétaire.
Quand la pop inspire la BCE, c'est uniquement sur Radio Patrimoine. À tout de suite.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Quelle rentrée sur les marchés financiers. On est en compagnie de Wilfried Gallant, stratégiste chez Montpensier, et Geoffrey Wafka, directeur de gestion chez Auris. Messieurs, on a fait un peu un panorama des risques voilà, qui pèsent. On a vu que bon, voilà, c'était plus ou moins sous contrôle. Ça ne nous dit pas sur quoi on va investir, oui. Geoffrey. On a vu que voilà, le luxe est extrêmement bien porté durant cette crise. Quoique là, ça commence à tanguer aussi un petit peu. La tech n'en finit pas de battre des records. Le Nasdaq est au plus haut. Vous qui regardez l'ensemble des marchés, pas que les actions d'ailleurs, il y a peut-être des obligations, de la dette privée, du private equity, que sais-je. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est investisseur là en septembre 2021? On est plutôt confort. Voilà, si on a investi, ça a grimpé. Que faire maintenant? Est-ce qu'on doit repenser un peu l'ensemble de ces actifs?
Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'interrogations après une progression aussi importante des marchés. Nous, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une énorme dichotomie entre les valorisations des valeurs de croissance, vous avez mentionné les GAFAM, vous avez mentionné le luxe, et les valeurs plus cycliques, plus value. On a des écarts de valorisation qui sont historiquement élevés. Et finalement, quand on regarde un peu en moyenne, les valeurs de croissance se payent en valo 2,5 fois plus que les valeurs value dites cycliques ou cycliques. Nous, ce qu'on va faire dans ce contexte-là, sachant que le soutien monétaire est en train de se réduire, on va équilibrer nos portefeuilles entre les deux thématiques, entre la croissance, entre la value, entre les cycliques.
Donc, on reste sur les actions.
Oui, on reste sur les actions. Comme je vous le disais, il y a une croissance des bénéfices qui est très importante. Elle va perdurer l'année prochaine. Donc, à horizon un an, il faut rester investi sur les actions. Il peut y avoir des soubresauts, puisqu'on a mentionné quelques risques en introduction de cette interview. Et ces soubresauts-là, il faut participer et racheter le marché quand le marché baisse.
Ça veut dire que là, si on a des à-coups, finalement, on panique pas. Au contraire, on profite des dips, comme on dit, des creux de marché pour se repositionner.
Exactement. Et c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu certains à-coups pendant l'été. On a mentionné le luxe avec l'intervention chinoise, notamment les déclarations. Typiquement, ça, c'est des points d'entrée intéressants pour remettre des valeurs du luxe. Historiquement, d'ailleurs, ça s'était déjà passé. Quand le gouvernement chinois essaye d'un peu de resserrer la vis, les classes moyennes chinoises anticipent et achètent du luxe en anticipation qu'ils ne pourront pas le faire dans le futur. Donc nous, on a mis par exemple à profit le retrait de Kering, d'LVMH pour en remettre dans nos portefeuilles. Ça, c'est pour la partie valeur de croissance. Et pour les parties value, on aime bien quand même certains secteurs qui sont délaissés. On pense à tous les secteurs qui sont liés à la réouverture de l'économie. Les brasseurs, notamment, les brasseurs qui ont été pénalisés par la baisse du nombre d'événements musicaux, manifestations, etc. On trouve que les valorisations à très long terme sont vraiment très bonnes. C'est des bons points d'entrée. Donc, on va vraiment panacher nos portefeuilles en actions. Et ensuite, sur la partie obligataire, on va favoriser des segments très spécifiques. Certains dossiers en haut rendement, crédit haut rendement, ce sont des entreprises qui sont très endettées, mais qui offrent quand même des rendements potentiels aux investisseurs autour de 4-5% par an. On va aussi privilégier certains segments qui sont un peu plus spécifiques, comme la dette subordonnée financière, qui, en vous exposant à des grandes banques européennes, type BNP, type Société Générale, type Banco Santander, Unicredit, vous allez quand même pouvoir avoir des rendements intéressants dans un monde où aujourd'hui, il n'y a plus de rendement, pour le coup.
Et les investissements responsables ? Vous n'en avez pas parlé, vous les avez pas cités.
On n'en a pas parlé. C'est vrai qu'en 2020...
C'est la mode, là. On en parle beaucoup.
Effectivement, en 2020, c'est une thématique qui a énormément fonctionné et performé. En 2021, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y a énormément de flux, notamment sur l'énergie verte. Ouais. En début d'année, on a vu les cours partir en cloche. Mais derrière, ça s'est normalisé parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a des valorisations qui sont très excessives et qui ne justifient pas forcément un investissement à long terme dans ces positions-là. Donc oui, il faut mettre de l'ISR.
C'est quoi juste, pourquoi c'est excessif d'un coup, c'est du greenwashing, c'est quoi?
C'est ça, c'est tout le greenwashing qui est arrivé, des flux massifs qui sont arrivés sur ces entreprises-là, sans distinction finalement entre les bonnes et les mauvaises entreprises, entre celles qui font du résultat, celles qui n'en font pas, et les valorisations ont explosé. Donc finalement, il vaut mieux rester sur les fondamentaux et régulièrement, quand les entreprises et les valorisations redeviennent intéressantes, bon là, on peut remettre pardon, dans les portefeuilles.
Donc, il faut rester prudent sur ce secteur.
Quand les valorisations sont trop élevées et qu'on voit que les flux financiers sont trop importants, c'est probablement qu'il y a de l'exubérance. Il faut se recalmer, se retirer et puis revenir plus tard quand la marée est redescendue.
Wilfried, là, est-ce qu'il y a eu un effet mode, justement, avec ces flux qui sont arrivés en masse? Il suffit de mettre ESG ou relabiliser ISR pour voir son fonds grimper à peu près mécaniquement?
Je pense qu'il y a une véritable tendance de fond, ça c'est très clair, à la labellisation des investissements, en particulier la labellisation des investissements actions.
C'est vrai qu'on va fleurir un peu des labels partout.
Et c'est effectivement un des sujets qui est en train d'être abordé par l'Union européenne. Hein, c'est comment est-ce qu'on harmonise pour savoir précisément dans quoi est-ce qu'on investit. Donc ça, effectivement, je pense que ce flux-là, il est là pour durer, il est là pour longtemps. Toute la question, c'est que les marchés anticipent toujours, et ils anticipent toujours beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement ils voient qu'on va avoir des plans de relance verte, des transitions énergétiques à marche forcée, des réglementations de plus en plus strictes de la part de l'Union européenne et de plus en plus d'autres pays, ils se disent qu'il va y avoir énormément d'argent et donc ils anticipent énormément. Et donc effectivement, on a ces effets d'à-coup parfois sur des valeurs qui sont non pas des valeurs ISR mais véritablement des valeurs liées à la transition énergétique qui peuvent être très importants. Moi, je pense que ça reste un thème d'investissement. Tout ce qui est solutions climatiques reste un thème d'investissement qui est incontournable dans les portefeuilles. Alors, effectivement, comme disait Geoffrey, il faut plutôt profiter des à-coups de marché à un moment donné pour rentrer. Mais on doit avoir dans son portefeuille, comme il y a 20 ans, on devait avoir du pétrole dans son portefeuille parce que c'était un investissement long terme et on savait qu'on allait avoir de plus en plus d'investissements dans tout ce qui était énergie pétrolifère. On sait qu'on va avoir de plus en plus d'investissements dans les énergies vertes. C'est inéluctable.
Vous rejoignez quand même le point de Geoffrey, c'est-à-dire on reste quand même sur les actions pour cette fin d'année.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut être, effectivement, faut être peut-être légèrement sous-investi. Faut rester dans les marchés parce que les marchés avancent. Et donc, il faut absolument rester dans les marchés. Garder de ce qu'on appelle de la poudre sèche, hein, garder du cash
des
pour investir.
Ouais.
Exactement. Je pense que ça, c'est très important. Et puis, regardez.
Mais garder combien de temps, du coup ?
Pardon ?
Garder combien de temps ?
Effectivement, il faut regarder, par exemple, dans ces marchés-là, il faut être discipliné. C'est-à-dire, si j'ai 5%, 10%, 15%, 20% de baisse, qu'est-ce que je fais ? Et il faut le savoir avant. Parce que lorsque la correction se déclenche, il y a toujours des éléments qui vont dire « mais la correction peut durer, effectivement ».
Il faut être prêt, en fait.
Voilà, l'environnement change et l'environnement psychologique change. Sur ce plateau, on n'aurait pas du tout le même type de discussion si jamais on venait d'une correction de 10%. Donc il faut être discipliné, se fixer des seuils d'entrée, se fixer des thèmes d'investissement, de dire « il y a des thèmes d'investissement liés à la santé, liés à l'impact digital, liés effectivement à l'efficacité énergétique, qui sont des thèmes d'investissement de long terme, et donc ça, j'en profite. Je rentre dedans et puis tactiquement je peux effectivement profiter, pourquoi pas, des marchés qui ont fait des creux très importants en disant là il y a peut-être des éléments, mais vraiment se focaliser sur des points d'entrée et les thèmes d'investissement long terme.
Je vous repose la question spéciale millénial, effectivement, sur les cryptos, parce que ce n'est pas encore une classe d'actifs dans le sens du terme, quoique certaines gestions commencent à s'y intéresser. Ouais. Est-ce qu'on doit réserver, on doit commencer à anticiper peut-être ce nouveau monde de la blockchain et mettre peut-être 1, 2, 5% de ses avoirs sur cette nouvelle technologie plutôt que ces nouvelles monnaies?
Pour nous, financiers, c'est très dur de se positionner sur les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que si on se réfère à la définition d'un actif financier, les crypto-monnaies n'y répondent pas du tout. Les crypto-monnaies ne sont pas un actif, ça ne génère pas de bénéfices, ça ne génère pas de rendement. Donc pour nous, cela ne peut pas être des actifs. Néanmoins, la vraie question, c'est la confiance qu'une population peut mettre dans quelque chose qui est un actif digital. Finalement, plus la confiance est grande, il y a un effet boule de neige. Et qui pouvait dire, il y a 3-4 000 ans, que l'or deviendrait une valeur refuge ? Finalement, pourquoi on a donné la confiance à l'or ? Alors, l'effet rareté, oui. Alors, on l'explique sur les crypto-monnaies, même s'il n'est pas forcément vrai, puisque, en fait, on peut diviser la monnaie et les crypto-monnaies pour en acheter à la virgule près. Donc, finalement, il n'y a pas d'effet rareté. Mais on voit bien que les millénials adoptent ces modes de paiement, ces crypto-monnaies.
Bon, ce n'est pas encore dans le panel de gestion.
Mais pour moi, ça ne peut pas rentrer dans un actif classique. Et c'est quand même des actifs qui sont très, très spéculatifs et sur lesquels on peut perdre beaucoup d'argent.
Wilfried, il y a les crypto-monnaies, mais il y a de plus en plus aussi d'actifs digitaux, ces fameux NFT, les jetons non fongibles sur les arts. Maintenant, on voit des cartes à jouer. Il y a un acteur qui va peut-être s'introduire bientôt en bourse. Voilà, votre point de vue, là aussi, même si c'est un OVNI, aujourd'hui un objet financier non identifié, est-ce que ça peut se stabiliser, se standardiser ?
Je pense qu'il faut revenir effectivement aux fondamentaux de l'investissement. Et on est quand même dans les fondamentaux aussi de l'investissement, c'est-à-dire que les NFT ne font jamais que recréer de la rareté. Et les investissements, c'est aussi, en tout cas dans des investissements d'actifs, sur des actifs qu'on veut rares. Et donc les NFT recréent de la rareté dans des environnements où il n'y en avait plus, dans des environnements où il y avait des capacités de reproduction quasiment infinies. On l'a vécu d'une certaine façon, même si ce n'était pas numérique, dans le marché de la photographie, par exemple. La photographie, vous pouvez le répliquer à l'infini, mais vous avez des tirages dits originaux. Vous avez, en général, un tirage sur 8, qui sont 8 tirages qui sont originaux. Et vous achetez, vous savez que vous achetez, vous avez des certificats. Et maintenant, vous les avez d'un point de vue numérique. Donc ça, je pense que c'est très intéressant parce que ça recrée de la rareté. Après, qui dit rareté dit spéculation. Et donc, quand on investit dedans, il faut investir les yeux grands ouverts en sachant quelle est la proportion effectivement qu'on donne à ces actifs-là dans son portefeuille, et en étant très très clair sur les risques aussi associés. Hein. Quand je reprends les crypto-monnaies, c'est l'alliance en particulier sur le Bitcoin, c'est l'alliance un peu magique de la finance, de la technologie et de la rareté. Hein. Vous avez ces trois éléments-là qui tournent et qui vous ont créé un tourbillon exceptionnel. Il faut être très clair sur le fait que plus ces crypto-monnaies veulent se positionner comme étant des concurrents des monnaies souveraines, plus elles s'exposent à des régulations de plus en plus violentes.
Voilà,
donc, plus elles seront à l'écart, plus elles seront tranquilles, plus elles voudront rentrer dans un jeu qui n'est pas le leur, parce que ce n'est pas véritablement des monnaies, plus ça deviendra dangereux. Mais effectivement, je pense qu'il y a un côté diversification qui peut être intéressant dans la partie effectivement active de son portefeuille.
Et ben voilà, pour cette rentrée sur les marchés financiers et un petit pas de côté ailleurs avec les cryptos, on en sait un petit peu plus. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné des idées à tous nos auditeurs. Un grand merci à Wilfried Galland, stratégiste de Montpensier Finance.
Merci beaucoup.
Merci également à Geoffrey Wafka, directeur des gestions chez Auris. Merci Bérénice.
Merci Fabrice.
Merci à Théo et Pierre-Yves qui ont réalisé cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.